bien bonjour. Vous êtes sur Fréquence Mistral, donc bienvenue dans le Jardin des mots. Aujourd'hui, nous parlerons de solidarité. En ces temps troublés, peut-être est-il plus que jamais nécessaire de comprendre, de donner, de se recentrer. Nous retrouvons cet après-midi Daniel Berthet et nous ferons un clin d'œil à Jean Tripodi qui n'est pas avec nous. Daniel, auteur, nous parlera de son tout dernier ouvrage « Au nom de notre bonne foi ». Juste dire quand même que nous sommes des passeurs. Nous sommes des passeurs, passeurs de savoir et passeurs d'émotions. Nous sommes facilitateurs, ou nous essayons de l'être, facilitateurs de recherche. Et nous savons que l'accès de tous les citoyens à la culture reste le meilleur moyen de lutter efficacement contre l'intolérance, contre la violence. Alors mettons le chemin sous nos pieds. Bonjour Daniel.
Bonjour Christiane et bonjour Odile qui est aux manettes.
On dit bonjour à Odile, on bonjour. A tellement l'habitude de la voir là finalement.
Vous êtes, vous êtes gentil, merci.
Voilà, on est gentil. Alors nous sommes là pour parler du dernier ouvrage de Jean Berthet, pardon.
De au nom Daniel.
De, notre, de Daniel, pardon. Je suis très troublée et fort émue, mais c'est habituel chez moi, donc tout le monde est bien au courant. Alors en guise d'introduction, on va planter un décor. Nous sommes en février 1562.
450 ans en arrière.
Ça fait du temps, et est-ce que les choses ont vraiment changé, hein?
C'est la question à laquelle on va répondre pendant cette émission.
On va répondre.
Peut-être.
Voilà qui me laisse tout à fait perplexe. Alors je vais vous lire quand même, hein, vous dire un petit peu de quoi qu'on cause. Et pour ce faire, je vais juste lire les tout premier chapitre, paragraphe de ce livre. Donc, février 1562. Jouant à saute-mouton sur les pics enneigés des Alpes, les premières lueurs de l'aube s'emparaient lentement de l'espace abandonné par la nuit. Du côté de Lure, cahotant d'une pierre à l'autre sur une sente de braconnier pour atteindre le pas de la graille, un vieux fardier brinque-ballait son charroi sur des ornières incertaines. Le sommet de Lure, à peine franchi, les lames verglacées d'un mistral cinglant firent rapidement savoir au charretier que le plus dur restait à faire et qu'il fallait s'en remettre à sa bonne étoile s'il voulait atteindre Sisteron dans les deux prochains jours. Machinalement, il se signa. Voilà, Daniel. Alors, peut-être, vous nous dites quelques mots de ce livre et du pourquoi de ce livre par la suite.
Oui, tout à fait. Eh bien, écoutez, ce livre, il est né dans ma tête il y a à peine plus d'un an. C'est parce que je trouvais qu'on était dans une situation politique internationale qui nous emmenait vers une guerre. Et je ne voulais pas parler de l'actualité. Je suis très gêné de parler de l'actualité parce qu'on est obligé d'amener des faits réels. Donc, comme on parle de plus en plus de guerre de civilisation et de guerre de religion, j'ai eu envie d'emmener mon lecteur, d'emmener mes lecteurs dans les guerres de religion d'il y a 450 ans. C'est comme ça qu'est né ce livre. Et aujourd'hui, je constate que j'ai fait un livre sur la guerre de religion en 1562. Et je crois depuis quelques jours, on parle de plus en plus de guerre de religion. Et ça me déçoit beaucoup.
Dites-moi pourquoi toutes ces guerres, la haine, le sang et la misère. On est tous nés sur cette terre pour vivre heureux comme des frères. Dis-moi papa, pourquoi ces morts, au nom de Dieu, de tous les bords. On viole, on tue, on assassine, petits et grands, on les supprime. Dis-moi ma sœur, pourquoi tu pleures? Au pied des tours, il y avait des fleurs, des hommes, des femmes et des enfants que nous aimerons éternellement.
sont esclaves, qui vivent l'enfer, soumises mais braves. Un jour viendra, nos fils joueront, sans haine ni guerre de religion.
Eh bien, huguenots, parpaillots, catholiques, est-ce que tout cela a vraiment changé? On décale, on déporte. Et merci d'avoir choisi, Daniel, cet extrait musical, parce que moi, ça me touche beaucoup de voir la pureté, la clarté de la voix, la force de l'interrogation, qui est une interrogation qui est nôtre aujourd'hui. Et vous disiez tout à l'heure, ça fait peut-être un peu ringard, etc. Et je ne crois pas du tout.
Ouais. C'est une chanson d'actualité, c'est une très belle chanson. Et pour ajouter à cette chanson qui dit « Pourquoi les guerres ?», je voudrais donner les deux citations que j'ai mis au début de mon livre. La première citation est de Jean-Paul Sartre et elle dit « La violence est injuste d'où qu'elle vienne ». Et la deuxième citation est de Albert Camus, comme si c'était un petit peu une réponse à Jean-Paul Sartre, et il dit « Nous portons tous en nous nos bagnes, nos crimes et nos ravages. Notre tâche n'est pas de les déchaîner à travers le monde, elle est de les combattre en nous-mêmes et dans les autres. » Et je crois que aujourd'hui, nous avons besoin de réfléchir là-dessus. La violence est injuste d'où qu'elle vienne.
Tout à fait. Tout à fait. Eh bien, c'est une émission qui était prévue, hein, mais qui, c'est vrai, prend une coloration différente à la lumière des événements de ces derniers jours. On va essayer de revenir un peu
sur
l'auteur que vous êtes. Moi, j'ai lu un petit texte, parce que vous savez que dans cette émission, on essaie de traverser le miroir ou de déchirer un petit peu le voile et de voir qui est derrière... Derrière Daniel Berthet aujourd'hui. Alors j'ai trouvé un petit texte, j'ai trouvé facilement, il m'a suffi de bidouiller un petit peu sur Internet. Souvent je demande, qu'est-ce qui a déclenché chez vous l'écriture? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes... Et là, je trouve, enfant, j'avais l'imagination fertile. Ça vous rappelle quelque chose?
Oui.
Enfant, j'avais l'imagination fertile. D'une assiette ébréchée, je faisais un trésor perdu au fond des mers. Cela m'occupait de longs moments. Mais l'école supplanta bientôt la liberté, j'appris à me plier au sujet imposé. J'y perdis ma capacité de rêver. Étudiant, je me pris de passion pour les chiffres et j'en oubliais les lettres. Professeur, j'enseignais la logique, gestion et fiscalité délimitèrent mon royaume. Mais un jour, par un drôle de hasard, l'écriture vint frapper à ma fenêtre. À coups de canon, elle fit sauter la porte blindée. De mon imaginaire, alors, un bataillon de neurones se mit en marche et me fit découvrir le monde. Alors ?
Oui, c'est l'introduction que j'ai faite sur mon site personnel et ça me résume assez bien. Et c'est vrai que lorsque j'étais petit, j'étais très rêveur. Et puis, l'école m'a encadré un petit peu pour aller du rêve vers l'utile. Et de cette école que j'aimais beaucoup, j'ai dit il faut que j'aille vers l'utile. Et effectivement, mon imaginaire s'est réduit de plus en plus et je suis arrivé amoureux des chiffres. Alors ça, c'est quelque chose qui est un peu bizarre parce que c'est rare qu'on soit amoureux des chiffres. Mais j'ai toujours aimé cette logique des chiffres. Et donc, je me suis dirigé dans cette direction et j'en ai oublié effectivement le rêve, l'imaginaire. Et puis, arrivé en fin de carrière, Eh bien, effectivement, un malheureux hasard a fait que j'ai dû me tourner vers l'écriture pour résoudre un certain nombre de problèmes psychologiques. Et ça m'a servi énormément, ce malheureux hasard. Parce que là, j'ai eu l'impression que dans mon cerveau, il y avait eu deux cases. Une case mathématique que j'avais utilisée au maximum. Et puis une case du rêve, de l'imaginaire, que j'avais refermée définitivement depuis très longtemps. Et j'ai eu l'impression que j'enfonçais une porte blindée pour retrouver les neurones tout neufs de mon imaginaire. Et avec mon premier livre, que j'ai écrit en collaboration, eh bien, j'ai réussi à relier les neurones tout neufs de l'imaginaire avec les neurones anciens qui avaient l'expérience. Et ça, ça a été formidable.
Et ça, ça a certainement structuré aussi le livre qui, si je comprends bien ce qui vient d'être dit, n'est pas que de fiction. Parce que peut-être qu'il n'est pas tout à fait indiscret de vous demander quel est ce hasard qui, à coup de canon, a fait voler en éclats...
Oui, je ne reviendrai pas trop longtemps là-dessus, mais effectivement, ce coup de canon, ça a été une erreur judiciaire qui a été faite sur la personne de mon propre fils, donc de moi-même, parce que toucher à mon fils, c'est toucher à moi-même, comme tous les parents, je pense. Et il a fallu d'abord se battre contre l'absurde. C'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup Albert Camus. Parce que Albert Camus dit dans L'homme révolté, je me permets de faire la citation, « Vivre, c'est faire vivre l'absurde. Le faire vivre, c'est avant tout le regarder. » Et ça, c'est important. Lorsque on est en face de l'absurde, qu'on est pris dans le piège de l'absurde, eh bien, il faut absolument faire face à cet absurde, le regarder et, si possible, le combattre. Lorsqu'on l'a combattu, lorsqu'on est sorti victorieux, on n'est pas sorti indemne de ce problème. Et donc, il y a toutes les séquelles psychologiques, les séquelles traumatiques qu'il faut arriver à effacer. Or, lorsque vous êtes victime d'une erreur judiciaire, vous ne pouvez plus vous tourner vers les psychologues. Parce que une erreur judiciaire, c'est la société qui fait une erreur vis-à-vis de vous. Donc c'est toute la société. Et les psychologues font partie de la société. Donc il y a un moment où les psychologues ne servent à rien. Donc il faut se retourner sur soi-même. Et lorsqu'on s'est retourné sur soi-même, il faut arriver à extérioriser toutes ces souffrances, tous ces traumatismes. Et les extérioriser, c'est les regarder de face, prendre son stylo une nuit, et puis commencer à écrire.
L'écriture, catharsis.
Tout à fait. La résilience par l'écriture. Absolument. Et puis alors, c'est pour ça que je dis que quelque part, ce malheureux hasard a été peut-être un accident qui m'a été profitable parce que depuis, j'ai toujours eu envie d'écrire.
Et donc, vous avez toujours écrit.
Depuis cette affaire, c'est mon cinquième roman aujourd'hui.
Alors, vous nous parlez rapidement un petit peu des autres ?
Alors, j'ai une ligne directrice dans mes livres jusqu'à maintenant. Peut-être que ça changera dans l'avenir, mais c'est de parler de l'injustice. C'est certainement lié au point de départ. Alors, le premier livre a été sur l'injustice d'une erreur judiciaire. Le deuxième livre, qui s'appelle « Justice au point », a été l'injustice sociale entre les classes sociales. Le troisième livre qui porte sur Digne pendant la période d'Inquisition, et ça se situe en 1599, ça porte sur l'injustice qui a été faite aux femmes qui ont été jugées comme sorcières. Parce qu'il y a, je pense que je ne vais pas vous l'apprendre, qu'il y a eu beaucoup de femmes jugées comme sorcières et très peu d'hommes.
Eh oui, mais nous savons bien que toutes les femmes sont des sorcières, finalement, quand même.
Le livre suivant, ça a été sur l'injustice de la colonisation. Et je suis parti de la guerre d'Algérie et j'ai fait un roman qui traverse toute la guerre d'Algérie. Et puis le cinquième livre, eh bien, c'est l'injustice dans les guerres d'une façon générale et les guerres de religion, puisque ça nous concerne aussi aujourd'hui.
Alors moi, j'ai été frappée par plusieurs choses dans votre écriture. Hein. D'abord, la finesse des descriptions, on va dire. Et puis, il y a quelque chose dont je vais quand même, sur lequel je voudrais vous faire parler. Je trouve qu'entre le titre de vos livres et le contenu de vos livres, il y a un regard presque iconoclaste, un truc qui est décalé.
Ouais.
Est-ce que c'est voulu ? Est-ce que c'est le hasard ? Est-ce que c'est peut-être pas vous qui choisissez les titres ?
C'est moi qui choisis. Enfin, pour le premier titre, c'est mon co-auteur qui l'a choisi, pour le premier livre et pour le deuxième. Mais en général, notre démarche, c'est toujours la démarche aussi pour le dernier livre, c'est d'avoir une certaine ironie dans le titre par rapport au sujet. Et effectivement, quand le premier livre s'appelle « Il faut sauver le Saint-Esprit ». Alors, pour ceux qui ne l'ont pas lu, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je précise que dans le livre, le Saint-Esprit, c'est une école. Donc, ce n'est pas le Saint-Esprit de la religion. Et donc, dans l'erreur judiciaire que je raconte dans ce livre, on s'aperçoit que tout le système judiciaire d'une petite ville se met en place, fait une coalition pour sauver l'établissement scolaire dans lequel se passe le prétendu fait. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé « Il faut sauver le Saint-Esprit ». Donc puisque ça veut dire que toute la société judiciaire était prête à prendre deux ou trois boucs émissaires pour écraser, pour les écraser et sauver justement l'établissement scolaire.
Alors, dans vos livres, vous avez un langage qui est recherché, si je puis dire. C'est une très belle écriture. Hein. Moi, j'ai bien apprécié l'écriture. J'ai apprécié les descriptions d'outils, les mots, la façon dont vous jouiez parfois avec les mots. En revanche, je me suis beaucoup interrogée sur les caractères, notamment les caractères des femmes. Alors peut-être que parce que le premier livre que j'ai lu de vous, c'est Au nom de notre bonne foi, je n'ai pas trouvé cette profondeur, cette recherche que l'on voit partout ailleurs dans votre ouvrage, en l'occurrence, sur la psychologie féminine.
Oui, alors pour le dernier ouvrage, c'est un peu particulier parce qu'on est dans une armée d'hommes.
Oui, mais il y a quand même des personnages féminins.
Il y a quand même des personnages féminins, mais qui ne sont pas des moindres quand même, hein, donc qui ont une certaine importance. Mmh. Après, sur la psychologie féminine, quand on parle du Moyen-Âge, c'est un peu difficile. Je me suis beaucoup plus intéressé à la psychologie féminine dans mon avant-dernier ouvrage, c'est qui s'appelle Porteur de rêves et qui porte sur la guerre d'Algérie. Et j'ai voulu vraiment là faire intervenir les femmes dans la révolution algérienne. Donc je me suis vraiment intéressé à partir de cas concrets qui ont existé. Je me suis vraiment intéressé à la psychologie des femmes par rapport à la révolution, par rapport à la guerre d'indépendance. Donc c'est vrai que je reconnais tout à fait que je me suis laissé emporter plus par les caractères des hommes ici dans le dernier ouvrage.
Alors c'était ma perfidie habituelle et pas féministe pour deux sous cependant. Donc.
Mais parce que je le précise ici même, quand j'ai présenté Porteur de rêve avec Monique Etienne, qui est présidente de la FPS, puisque je travaillais avec l'association France-Palestine, eh bien elle-même a reconnu que j'avais fait des très beau descriptif des femmes, très belles analyses sur les caractères des femmes dans ce livre.
Bon, il ne me reste plus qu'à lire.
Il vous reste à lire Porteur de rêve.
Il me reste à lire Porteur de rêve. Bon, si on revient un petit peu à Au nom de notre bonne foi, qu'est-ce que vous auriez envie d'en dire ?
Eh bien, d'abord, sur le titre, puisque tout à l'heure, vous m'avez interrogé sur la manière de trouver le titre. J'ai cherché longtemps ce titre. Et puis, je me suis aperçu que pour le catholique de base, le protestant de base, le musulman ou le juif de base, c'est-à-dire le commun des mortels, il est toujours de bonne foi. J'en suis convaincu. Lorsqu'on croit dans une religion, on est de bonne foi. Seulement, les leaders qui nous emmènent à la guerre, au nom de la religion, ne sont pas de bonne foi. Donc, eux sont de très, très mauvaise foi et nous emmènent à la guerre au nom de notre bonne foi. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre, « Au nom de notre bonne foi ».
Alors, quelques personnages bien campés, vous nous en dites quelques mots?
Oui, alors le premier personnage qui me plaît, c'est le personnage principal, qui est un adolescent d'une douzaine d'années, qui s'appelle Tieno. Son père s'appelle Le Borgne parce qu'il lui manque un œil. Il a été éborgné dans un travail au niveau de l'ébranchage dans le bois. Ce personnage, donc ces deux personnages, vous avez lu un petit mot au début, c'est eux qui dirigent le fardier qu'ils emmènent jusqu'à Sisteron, parce qu'ils vont emmener des protestants qui se font massacrer à Fort-Calquier, et ils les emmènent à Sisteron, ils se réfugient dans Sisteron. L'histoire est vraie, hein, c'est exactement, oui, j'ai suivi la trame historique. Et donc les protestants finalement vont prendre le pouvoir à Sisteron. Les catholiques vont se retrouver à l'extérieur de Sisteron et il va y avoir le siège de Sisteron qui a duré de à peu près février 1562 jusqu'à juillet 1562 où les catholiques vont pouvoir rentrer à nouveau dans Sisteron. Et donc ce personnage de Tieno, eh bien, il va être embarqué avec l'armée des Huguenots, des Parpaillots, l'armée protestante. Et ils vont sortir de Sisteron par une nuit et puis ils vont partir sur Gap et sur Grenoble parce qu'ils vont aller en soutien aux protestants qui se trouvent sur Grenoble. Et donc dans ce périple, eh bien, ils vont... Mon personnage, Tieno, va rencontrer un ami qui s'appelle Lesdiguières, qui est qui deviendra un grand capitaine des protestants. Il le retrouve à Saint-Bonnet, c'est son pays d'origine, au-dessus de Gap. Et puis ensemble, eh bien, avec l'armée des Huguenots, ils vont partir jusqu'à Grenoble. Et puis après, bon, je ne vous raconte pas tout.
Non, ne racontez pas l'histoire, sans ça, on ne le lira pas. Et puis, comme je vous le dirai tout à l'heure, il faut absolument que tout le monde achète ce livre et le lise. Donc, vous n'allez pas nous le raconter. Hein, on dira après pourquoi. On voit bien que vous aimez le pays dans lequel vous vivez. Hein, parce que les descriptions, on est vraiment ici.
Oui, hein, mais je vais vous dire pourquoi. C'est parce que j'ai un auteur dans ce pays que j'admire beaucoup, qui est mon puits, c'est Pierre Magnan. Et quand j'ai lu Pierre Magnan, j'aime pas trop les histoires policières. Donc il y a longtemps de ça, j'avais commencé à lire Pierre Magnan et ça me plaisait pas pour les histoires policières.
La Violette vous plaisait pas?
Non, c'est vrai, j'étais pas attiré. Et puis je suis tombé sur Chronique d'un château hanté. Mm-hmm. Là, il n'y a pas d'histoire policière. J'ai pris ce livre, je l'ai lu, je l'ai relu parce que il y avait un puits de mots qui était incroyable. J'ai tout découvert, une magie des mots. Et lui, chaque fois que je le lis, me donne envie d'écrire. Alors ça, c'est extraordinaire parce que quand je manque d'inspiration, mais je reprends un roman de Pierre Magnan pour ses descriptions, pour ses mots, et je prends des notes sur toutes les pages. Je me dis, mais comment il a trouvé ça? Et c'est peut-être lui qui est à l'origine de tous ces livres.
On écoute un peu de musique?
Oui.
Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu. Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi. Avec un soupçon de réserve toutefois, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin. Car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure
pour des idées, n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Les saints Jean bouche d'or qui prêchent le martyr, le plus souvent d'ailleurs s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire un aparté. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Des idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles. Et la question se pose aux victimes novices, mourir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles? Et comme toutes sont entre elles ressemblantes, quand ils les voient venir avec leur gros drapeau, le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Encore s'il suffisait de quelques hécatombes pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin tout s'arrangeât. Depuis tant de grands soirs que tant de têtes tombent, au paradis sur terre on y serait déjà. Mais l'âge dort sans cesse et remis aux calendes, les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez. Et c'est la mort, toujours recommencer. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Ô vous les boutefeux, ô vous les bons apôtres, mourez donc les premiers, nous vous cédons le pas. Mais de grâce, morbleu, laissez vivre les autres, la vie est à peu près leur seul luxe ici-bas. Car enfin la Camarde est assez vigilante, elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux. Plus de danse macabre autour des échafauds, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.
Se faire plomber quand même complètement l'ambiance. Moi, je voulais revenir sur un point. Vos livres touchent, pour moi, à des valeurs extrêmement fortes. Et je lis sur la quatrième de couverture de Justice au Point. C'est un innocent qui veut se faire justice. C'est des prostituées qui luttent pour leur dignité. C'est des militantes qu'on réduit au silence. C'est des mafieux qui s'entretuent. C'est des magistrats corrompus. C'est enfin une histoire entre Dieu et Satan. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rencontres. Et on vient de parler de, au nom de leur bonne foi. On a parlé. On est toujours dans la même ligne. On est toujours dans cette espèce d'espérance invraisemblable que l'on sent en vous et dans vos écrits, qui se heurte à la réalité d'un monde fou, quoi.
Ouais.
Alors, est-ce que je me trompe ?
Non, c'est exact. C'est exact. J'adore Pierre Magnan. Je reviens sur Pierre Magnan. J'adore Pierre Magnan dans ses descriptions et j'adore dans ses personnages. Mais je trouve qu'il est toujours très gentil avec les personnages. Il a une bonhomie. Tous les personnages ont un bon côté, même s'ils ont des défauts. moi, je suis beaucoup plus sévère dans l'approche de l'humanité. Et peut-être ça vient de mon expérience, de l'accident qui a fait que je me suis mis à écrire. Et donc, j'ai un regard plus sévère, plus méfiant par rapport à l'être humain. C'est pour ça que je crois j'ai des personnages qui sont assez durs dans l'ensemble. Il n'y a pas de cadeau. J'ai par exemple dans le livre L'anneau de Saint-Jérôme qui décrit justement le procès des sorcières à Digne, j'ai un bourreau. Il est très méchant. On m'a fait des reproches. On m'a dit quand même, t'as été cru. Et moi, je voulais décrire un bourreau qui soit un vrai bourreau, pas un bourreau gentil. Donc, j'ai effectivement utilisé un langage très dur pour le décrire et des scènes horribles. Parce que je voulais regarder la réalité en face et je voulais rien lui accorder au bourreau. Et donc, dans les personnages, effectivement, les rapports sont souvent tendus. Je les vois comme ça.
Oui, oui, c'est moi ce qui m'a frappé. Je le redis, hein, cette réalité qui s'oppose à un idéal que vous portez,
vous. Et je voudrais rajouter quelque chose, c'est que dans l'extrait que vous venez de lire de quatrième de couverture de Justice au Point, on parle de Dieu et de Satan.
Oui, tout à fait.
Et je crois que dans tous mes livres, on parle de religion.
Absolument.
Donc, il y a ici quelque chose qui me révolte.
Sachant que vous n'appelez pas toujours Dieu Dieu et Satan.
Oui, hein, tout à fait. Oui. Je pense que quand j'entends aujourd'hui qu'on parle de guerre de religion pour aller faire la guerre au profit des industriels de l'armement, je suis révolté. Et je voudrais le crier très fort. Et c'est pour ça que dans mes livres, on retrouve ça, on retrouve la religion. Je suis toujours très ironique sur la religion parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans, dans toutes les religions.
Je
n'accuse pas une religion en particulier. Dans toutes les religions, il y a beaucoup d'hypocrisie. Et souvent, on nous emmène au nom de notre bonne foi, toujours.
Toujours au nom de notre bonne foi. Oui. Je pense que c'est avec leur bonne foi à eux, que les gens rentrent là-dedans.
Oui.
Complètement. Et vos mots ne sont pas vains. Hein. Je vais vous lire encore un petit morceau d'au nom de notre bonne foi pour la conquête d'une citadelle. L'attaque était lancée. Aléa jacta est, dit Sommerive avec satisfaction lorsqu'il se retourna du côté de son premier lieutenant. Alors le fracas des coups de bélier sur les bois du pont-levis se mit en branle, entonnant son hymne à la guerre. Au pas de charge, choisissant bien leur point de frappe, deux équipes d'une dizaine de fantassins se relayaient et, avec un élan de plusieurs cannes, projetaient la masse de leurs béliers sur les parties dépourvues d'armature. Réguliers, les coups se renvoyaient le même refrain dont l'écho allait s'égraser sur les rochers de la baume. Sous la torture, le portail finit par craquer. Il céda de ci, de là avant de se déchirer et d'offrir des trous béants à ses agresseurs. On fit une haie d'honneur aux albardiers chargés d'enfoncer les premières lignes ennemies. Une flopée de casques morions s'engouffra dans la plaque, pique en avant, avec la certitude d'avoir à empaler un premier bataillon de parpaillots une fois la porte franchie. En un rien de temps, devenus prisonniers d'une cellule à ciel ouvert, ils s'entassèrent comme de vulgaires coupes jarrées promis à la potence. Une giclure de sang chaud éclaboussa les murs avant de rougir la poussière du sol. Il venait d'être égorgé comme un goré. La première ligne recula. Flux et reflux se firent un combat sans merci, face à face, jusqu'à tendre vers l'équilibre de l'immobilisme. Alors j'ai fait des coupes, hein, oui. Et c'était parce que les images colorées, et c'est très visuel comme écriture. Alors comment vous écrivez?
Alors d'abord... J'utilise une technique moderne qui s'appelle le traitement de texte. Et il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent avec leur stylo. Et j'ai toujours admiré ces gens qui écrivent avec un stylo parce que moi, pour écrire un paragraphe, je m'y reprends une centaine de fois à peu près. Je fais des ratures. Je change les phrases dans tous les sens. Et donc, c'est le traitement de texte qui me sauve parce que je remets à neuf toujours un texte qui est propre chaque fois que je fais une modification. Et si je devais écrire avec un stylo et une une feuille, je pourrais pas le faire. C'est pas possible. Je sais pas le faire. Donc j'admire les gens qui travaillent avec le stylo et la feuille. Lorsque j'ai une idée, l'idée elle est très simple au départ. Et puis, elle va s'enrichir petit à petit au fur et à mesure que je modifie ce texte. Et quelquefois, il y a des images qui viennent la nuit, qui viennent dans la journée, même des choses que je capte comme ça, et qui vont venir enrichir le texte. Et je vous assure que pour chaque paragraphe que j'écris, si je reprenais le nombre de fois que j'ai modifié, je suis impressionné. Je ferai des statistiques qui seraient écœurantes pour tout le monde. Mais je le fais avec plaisir. C'est ça la différence. C'est que je le fais pas par contrainte. Chaque fois que j'ai écrit un premier jet d'un paragraphe, j'ose même pas le relire. Je me dis c'est tellement affreux ce que j'ai écrit, c'est pas beau, c'est j'aime pas. Et puis au bout de quelques heures ou le lendemain ou le surlendemain, je le reprends. Et à ce moment-là, je modifie un mot, deux mots, je rajoute une virgule. Et déjà, je suis content de la modification que j'ai faite. Et puis ensuite, j'enrichis petit à petit ce texte jusqu'à ce que je trouve une certaine satisfaction dans la lecture, qu'il y a une certaine fluidité, que effectivement, il y a un côté visuel. Et j'ai pas du tout l'oreille musicale. Et en musique, je suis complètement ignare, mais par contre la fluidité d'un texte, j'arrive à la construire. Ça, c'est important. Je sens une certaine mélodie dans le texte, et ça me plaît de trouver ça.
Alors, et les personnages, parce que là on est dans le cadre, si je puis dire. Ces petits personnages, vous les intellectualisez, vous les campez là? Ou bien ils apparaissent, comme disent les auteurs, à l'insu de votre plein gré.
Tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand je prends un roman comme celui-là, je sais que je vais écrire sur le siège de Sisteron, parce que ça démarre de là, mon idée. Je vais introduire le siège de Sisteron, et puis j'ai mes deux premiers personnages, qui sont donc ici dans ce cadre-là, le jeune Tienno et puis son père. Et je sais qu'ils vont partir de Sisteron, de Forcalquier, ils vont aller jusqu'à Sisteron. C'est tout ce que je sais. Et ensuite, je vais avoir à décrire le siège de Sisteron. Alors là, je suis obligé quand même de me plonger un petit peu dans l'histoire.
Dans les archives.
Oui, dans les archives. Alors je lis beaucoup quand même sur le sujet. Et puis, ensuite, quand j'ai lu sur le sujet, je m'en détache complètement. Parce que sinon, mon imaginaire ne travaille plus. Alors c'est là que je me replonge un petit peu dans Pierre Magnan et que je vois avec quelle ironie il parle de la nature, il parle de choses et d'autres. Et ça m'inspire aussi pour faire travailler mon propre imaginaire. Et donc, pour revenir au personnage, eh bien, au fur et à mesure, je les découvre. Et bien souvent, je suis complètement coincé à un moment, je ne sais plus quoi raconter, comment je vais m'en sortir de cette situation, et ça arrive souvent. Et d'un seul coup, il y a un personnage qui arrive dans ma tête, et qui débarque là au milieu. C'est par exemple le cas de deux personnages là qui accompagnent Tienno à un moment, et qui s'appellent Joue Creuse et Cœur en Joie. Mais ces personnages sont arrivés dans le récit tout à fait par hasard.
De
vagabonds qui passaient par là, et puis que l'armée des protestants a récupéré. D'abord, ils leur ont fait passer un moment de torture parce qu'ils croyaient que c'était des espions catholiques. Et puis après, ils les ont intégrés dans l'équipe, comme des soudards, c'est-à-dire que des gens qu'on paye pas, qui traînent derrière l'armée, mais qui peuvent rendre service. Et ces deux personnages que je croyais venir juste pendant un paragraphe, eh bien après, ils ont pris de l'ampleur. Et ils m'ont aidé à construire le roman.
Et alors, dans votre ouvrage, Ce que l'on sent bien, c'est la façon dont, au départ, chacun est sûr de ce qu'il dit, de ce qu'il pense, et la façon dont, très progressivement, ils vont réaliser qu'il n'y a pas de bon, il y a pas de, le bon côté n'est pas forcément...
Oui, tout à fait. Sauf que les personnages du petit peuple, c'est ici Tienno, par exemple, eux ne s'en rendent pas compte, sont de bonne foi. Oui. Et par contre, ceux qui sont leaders, les chefs, eh bien, eux sont très conscients que de toute façon, la religion, c'est qu'un moyen d'endoctriner le peuple pour l'emmener à la guerre. Mais eux sont capables de changer d'une religion à l'autre. Je prends le cas de Lesdiguières. Mmh. Lesdiguières qui, d'abord, s'est battu avec les catholiques, avec le capitaine Montgiron à Grenoble. Ensuite, il est passé chez les protestants parce qu'il était d'origine protestante. Et ensuite, en 1626, quand il a eu l'occasion de devenir connétable de France, eh bien, il est passé chez les catholiques. Je prends le cas du baron des Adrets, qu'on appelait le baron rouge, qui était un personnage qui a existé, qui était un dur de dur. Eh bien, au départ, il s'est battu avec les catholiques pendant les guerres d'Italie. Et comme il n'a pas été suffisamment récompensé par les catholiques, il est passé chez les protestants. Chez les protestants, on lui a permis de devenir, en quelque sorte, le gouverneur du Dauphiné et même de la Provence. Et puis, à un moment, on a trouvé qu'il était trop méchant. Et donc, on lui a préféré quelqu'un d'autre pour devenir le gouverneur de Lyon. Ça lui a pas plu, il est repassé chez les catholiques après. Donc c'est extraordinaire quand même.
Et oui, mais vous me rappelez, il y a combien d'années tout ça ?
450 ans.
Est-ce que les choses ont vraiment beaucoup, beaucoup changé ?
Alors, je voudrais juste dire, justement là-dessus, une petite citation que vous connaissez sûrement d'Anatole France. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels.
Oui, tout à fait.
Et ça, c'est tout important aujourd'hui. Mm. Peut-être plus qu'hier encore.
Plus qu'hier, parce que le poids est beaucoup plus lourd,
oui,
peut-être. Alors, on va peut-être, comme je voudrais quand même un petit peu faire un clin d'œil à Jean Tripoli tout à l'heure, je voudrais, parce que quand même, il y a des belles choses, et puis que l'espérance est toujours là, hein, Peggy l'a dit bien avant nous, que la petite flamme espérance était toujours là.
À ce sujet, je vous précise que la dernière phrase de ce livre, si vous voulez la lire, la toute dernière phrase, le dernier... Mmh. Qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce que mon personnage dit ?
Alors, eh oui, mais il faut d'abord... Oui. Alors, apaisé, en découvrant à travers eux un nouveau mystère de la vie, j'embrasse la médaille de Sainte-Claire et j'écoute mon cœur battre en me soufflant doucement vivre et espérer.
Voilà. Vivre et espérer.
Et oui, vivre et espérer. Bon, et ben alors peut-être que du coup, oh si, quand même, c'était une belle phrase. Je suis désolée, je vais quand même...
Oui, bien sûr. Hein.
C'est
je vous ai coupé un peu.
Non, pas du tout. C'est la façon dont vous décrivez la surprise et la beauté de la réunion qui me touchait. Donc l'homme sursauta. Au-delà de la surprise, l'accent, la tonalité, la musique de la voix ravivèrent le passé. Et de l'autre côté du pétrin... Il fallut à Tienno un temps de réaction avant de pouvoir s'écrier « Le Borgne, mon père ?» Mais je trouve que la force des mots dans cet ouvrage donc qu'il faut lire hein, me renvoie à quelque chose que j'ai lu et que j'ai noté de vos écrits, mais je ne sais plus où je l'ai lu. Tu ne fais qu'unité avec les éléments du cosmos. La terre, l'eau et l'air. C'est en acceptant ce principe d'alchimie entre esprit et matière que tu construiras ta pierre philosophale. Inutile de provoquer la fin de ton destin. Inutile de te morfondre dans l'aigreur. Inutile de courir le monde. Inutile de perdre ton temps dans des rêves inaccessibles. C'est seulement au fond de ton âme que tu dois t'aventurer. Et j'ai envie de vous dire merci pour ces phrases-là.
C'est dans le dernier chapitre. Dans le dernier chapitre aussi. Voilà. Voilà. C'est un des personnages de ce livre qui réfléchit sur elle-même par rapport à tous les ennuis qu'elle a pu avoir dans la vie et qui s'adresse à un grand chêne parce qu'elle a vécu au pied de ce grand chêne. Et au pied de ce grand chêne, d'ailleurs, j'ai placé la tombe de Pierre Magnan. Et puis, justement, elle s'adresse à la splendeur de ce grand chêne. Et elle parle avec lui et lui lui dit cette phrase pour la consoler et puis lui éviter le suicide.
Comme disait Nazim Hikmet, vivre seul, libre et debout, mais vivre comme un arbre dans la forêt, entre frères.
Ah, c'est magnifique, voilà.
Elle est un peu abâtardie, là. Je vous la donnerai tout à l'heure.
Jean Tripoli.
Oui, je voulais donc faire un petit clin d'œil et vous laisser le faire à Jean Tripoli, qui aurait dû, pu être avec nous, mais qui est très, très occupé en ce moment. Et puis, très honnêtement, nous avons été très, très bavards, donc c'eût été peut-être un petit peu compliqué. Donc, je disais qu'il fallait acheter ce livre. Et vous allez nous dire pourquoi.
Oui, alors le livre est vendu 15 euros, mais s'il est vendu directement par moi-même ou s'il est vendu sur le stand du Téléthon le samedi 5 et le dimanche 6 décembre, eh bien 5 euros par livre sont reversés au Téléthon. Et j'ai l'habitude pour chaque livre que j'écris de m'associer avec une action humanitaire ou sociale. Alors, je l'ai fait déjà pour une association qui soutenait un condamné. Parce que je considérais comme innocent. Je l'ai fait pour le Secours populaire. Je l'ai fait aussi pour l'association France-Palestine dans le cadre de nos reconstructions de maisons dans la vallée du Jourdain pour des Bédouins qui avaient été expulsés par l'armée israélienne. Et puis aujourd'hui, mon livre sortant au mois d'octobre, eh bien j'ai dit comme j'apprécie beaucoup Jean Tripoli, je suis allé le voir en lui disant j'aimerais travailler avec toi et t'apporter quelques euros de plus pour le Téléthon, d'autant plus que Jean a l'ambition, et peut-être qu'il y arrivera, promouvoir Digne comme ville ambassadrice du Téléthon en 2016. Et donc, il faut qu'on soit le maximum à lui apporter notre soutien. La ville est partenaire de ce Téléthon. Et donc, j'invite tous les gens que j'ai pu convaincre, que vous avez pu convaincre par vos lectures, eh bien, je les invite à acheter ce livre au nom du Téléthon. Et ils pourront toujours en faire un cadeau s'ils n'ont pas envie de le lire.
Oh non, je crois qu'il faut le lire et en acheter un autre pour faire un cadeau. Je vais vous lire juste le petit mot que Jean Tripoli a envoyé. Hein. Cher lecteur, une société solidaire, c'est une société ouverte sur les autres. L'esprit de solidarité collective ne se limite pas à l'assistanat. Au-delà du soutien envers ceux qui ont besoin des autres dans leur parcours de lutte contre les difficultés, cet esprit se doit aussi de leur apporter dignité, reconnaissance, respect et fierté. Je suis certain que l'homme est bon et qu'il porte en lui un réel potentiel à faire le bien. Merci à toutes les associations de notre pays qui œuvrent au fil du temps pour confirmer cette conviction. Merci à Jean Berthet pour le...
Daniel.
À Daniel, mais décidément, je vous aurais débaptisé 3 fois aujourd'hui. Bon, voilà. Donc,
voulait terminer sur un mot d'espoir. Je constate que la lecture de ce mot, c'est un très beau mot d'espoir de la part de Jean Tripoli. Et je dois dire que Jean est quelqu'un de merveilleux, plein d'enthousiasme et que c'est formidable de travailler avec lui. Et donc, j'appelle tous les Dignois à venir faire un tour au Téléthon, à donner pour mon livre s'ils le veulent, mais aussi pour d'autres actions du Téléthon.
Alors, petite explication de texte. Votre livre, vous allez le présenter ce week-end. Comment ça va se passer là dans
Alors, mon livre, on peut soit le commander par bon de souscription sur des bons qui se trouvent à la médiathèque, par exemple, ou qui sont distribués par l'association Cœur Lavande. Ensuite, on me l'achète directement sur mon site qui s'appelle danielberthet.com ou sur le site de Cœur Lavande ou en se déplaçant, si on a l'occasion de se déplacer le samedi 5, le dimanche 6 décembre, je serai sur le stand du Téléthon et donc je pourrai également dédicacer le livre aux éventuels acheteurs. Que j'espère nombreux.
Bien sûr. Et alors, pour conclure, les projets de Daniel Berthet pour le temps à venir. Un autre projet de livre ?
J'ai toujours un petit projet derrière la tête. Quand je termine un livre, j'ai envie d'avoir un autre projet parce que quand on termine un livre...
On est orphelin.
On est orphelin un petit peu, oui, c'est vrai. Et puis, on a envie de poursuivre ce projet. Chaque fois que j'ai voulu poursuivre le projet d'écriture dans la lignée du livre... je me suis cassé la figure parce que, en fait, faut raconter une autre histoire. Il faut complètement changer d'ambiance, etc. Donc, actuellement, je suis dans une autre ambiance qui portera peut-être sur Digne. Je vous dis pas quoi parce que si je suis très superstitieux et je sens que si je dis de quoi il s'agit, eh bien, je perds l'inspiration. Donc, vous
normal,
le saurez pas, Christiane, mais vous le saurez prochainement si j'arrive au bout du livre.
Sur cette même antenne, éventuellement, dans quelques
avec
années.
Odile et par contre, vous savez que quand on écrit un roman, c'est très long, c'est un véritable chantier et on n'est jamais sûr d'arriver au bout parce qu'on n'a pas, des plans d'architecte et donc on construit, enfin en ce qui me concerne, je construis en faisant du bout à bout, je connais la ligne directrice, je sais que je vais rencontrer des personnages, c'est ça qui me passionne, je vais les décrire, je vais décrire des situations, je vais me battre avec l'écriture, c'est formidable, mais je ne suis pas sûr d'arriver au bout quand même, il n'y a que quand j'arrive dans les derniers chapitres que je sens que je suis arrivé au bout. Alors, dans la construction du roman, il y a une partie montante et une partie descendante. Moi, je fais des romans qui font autour de 220 à 230 pages et je sens que quand j'arrive à 130 pages à peu près, j'ai pratiquement gagné la situation parce que la partie descendante sera plus facile. Alors ça, c'est très
amusant,
étrange.
Comme vous faites de l'escalade ou de la montagne parce
non,
que c'est, une,
mais
c'est une image qui...
C'est vrai, vous assure, j'ai l'impression d'escalader effectivement une montagne et ensuite de la redescendre en passant de l'autre côté. Donc je suis au sommet et je vais aller jusqu'au bout après. Mais tant que j'ai pas atteint ce sommet, je suis pas sûr.
Bon, et moi j'ai une question alors. Vous avez écrit, je crois, il suffit d'une rencontre pour que tout bascule. Alors si quand vous êtes au sommet, il y a une rencontre et il faut aller encore plus haut.
Et alors là, je reviens avec mes qualités de comptable logique et je sais que mon roman il doit tenir 220 pages, 230 pages et donc je vais faire des calculs pour arriver à ce que les personnages que je rencontre eh bien m'emmènent pas trop loin parce que je veux vendre mes livres qu'à 15 euros pièce et pour que ce soit pas trop cher et puis j'ai toujours peur d'embêter un peu le lecteur en l'emmenant trop loin et donc là j'avoue que les qualités de logique que j'avais dans mon métier me servent un petit peu pour gérer un petit peu le plan du roman.
Et donc, la rencontre entre le mathématicien et le rêveur, peut-être ?
Oui, tout à fait. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les neurones de l'imaginaire rencontrent les neurones de l'expérience mathématique et logique et il y a un travail commun qui est fait. C'est un peu surprenant.
C'est questionnant, je dirais. Ouais. C'est amusant parce que on a rarement ce genre de discours-là qui dit que la logique et la rigueur mettent l'imagination, la folle du logis en cage quelque part.
Est-ce oui, mais par exemple, dans mes premiers romans, j'ai des lecteurs qui m'ont dit souvent, qui m'ont fait la remarque que le roman démarre très lentement et il y a beaucoup de descriptions, etc. Et puis, quand on arrive à la fin du roman, j'accélère. Et je suis tout à fait d'accord avec cette critique parce que quand j'arrive à la fin du roman, il y a le côté logique qui me dit « Attention, maintenant, il faut terminer le roman dans les limites. » Et donc, j'ai tendance effectivement à accélérer un petit peu, ce qui est dommage.
Oui, alors là, on est aussi dans le sport. Ouais. Le sprint final, ouais, peut-être.
Peut-être dans le sprint
finalement,
final.
Finalement, mais vous êtes un homme complet, parfait.
Dans l'écriture, j'utilise tout ce que je peux.
Tout ce que je peux. Eh bien, il nous reste à vous dire un grand merci. Peut-être que vous avez envie de rajouter quelque chose.
Mais d'abord, je voudrais vous dire merci, Christiane. Merci, Odile, aussi, à la technique. Et je suis très content des petits morceaux que vous avez lus, parce que c'est la première fois que j'entends mes écrits qui sont lus par quelqu'un d'autre. Et ça m'a fait beaucoup de plaisir. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à participer à cette émission.
Eh bien, merci. Merci, Odile, parce que ce jardin des mots est toujours plein de surprises. Et puis, au mois prochain, je pense, on se quitte en musique.
Je vous propose, en relisant ta lettre, c'est Gainsbourg qui chante cette chanson où il corrige les fautes d'orthographe. Je trouve ça amusant. Allez, au revoir.
Au revoir.
En relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait deux. C'est toi que j'aime, ne prends qu'un M, par-dessus tout. Ne me dis point, il en manque un, que tu t'en fous. Je t'en supplie, point sur le i, fais-moi confiance. Je suis l'esclave, sans accent grave, des apparences. C'est ridicule, c'est majuscule, c'était si bien. Tout ça m'affecte, ça c'est correct, au plus haut point. Si tu renonces, comme ça se prononce, à m'écouter, avec la vie, comme ça s'écrit, j'en finirai. Pour me garder, ne prends qu'un dé, tant de rancune. T'as pas de cœur, y a pas d'erreur, là, y en a une. J'en mourirai, n'est pas français, ne comprends-tu pas? Ça sera ta faute, ça sera ta faute, là, y en a pas. Moi, je te signale que Gardénal ne prend pas de...